prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'appel de la vie.
Alors, livre du prophète Ésaïe, chapitre 42 et le verset 6-8 et on terminera par le verset 16. Voilà, je pense que c'est facile, c'est le prophète Ésaïe, c'est en plein milieu de votre Bible. Mais enfin, il faut trouver quand même la page. Il y en a avant et après. Alors, voilà, 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le verset 16, s'il vous plaît, même chapitre. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Voilà pour notre lecture, première lecture, et je crois que elle convient bien à un homme dans l'histoire biblique, où véritablement, eh bien, Dieu a fait de cet appel, véritablement, et a donné le sens à un homme, le sens de toute sa vie. Alors, je ne vais pas vous laisser dans l'impatience de savoir quel est ce personnage. Si je vous dis tout simplement, est-ce que ça ressemblerait pas à Abraham? Je crois que c'est ainsi que nous pouvons aborder l'histoire d'Abraham que je voudrais vous raconter maintenant, et particulièrement l'appel d'Abraham. Parce que peut-être on se dit, mais c'est vrai qu'il y a des histoires assez étonnantes, extraordinaires dans la Bible, et peut-être avez-vous entendu parler, ou peut-être avez-vous fait même l'expérience. Mais comment se fait-il que Dieu appelle des hommes? Comment se fait-il et comment être appelé par Dieu? Pourquoi Dieu appelle-t-il des hommes? Dans quel but? Pour quel objectif? Alors c'est à cela que nous allons essayer de répondre, parce que je voudrais vous dire que c'est vrai, s'il y a très très longtemps, loin de notre histoire d'aujourd'hui, eh bien un homme a été appelé, c'est vraiment Abraham. Et finalement c'est de lui que découle eh bien ce que nous sommes aujourd'hui. Alors naturellement, hein, il y a eu des temps qui sont passés, des sociétés, des civilisations. Mais Abraham correspond véritablement au premier homme, enfin, à l'homme qui le premier a vraiment fait confiance à un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas, dont il ignorait tout. Et figurez-vous que s'il y a une réponse dans la vie d'Abraham, c'est parce que il y avait quelque chose dont nous sommes appelés à posséder les uns et les autres, hein, par-delà nos cinq sens, vous savez. Hein, les sens, hein, les yeux, les oreilles, le goût, le toucher, et voilà, ceci et cela. Il y a un sixième qui est essentiel, qu'Abraham finalement a découvert et que nous sommes appelés à découvrir au contact de l'Évangile et de la Bible, c'est le sens de la foi. Et c'est pourquoi Abraham a été appelé et est toujours appelé dans les milieux des Juifs ou dans les milieux chrétiens le père de la foi, et il y a une raison. Parce que si vous regardez ce texte, il nous est dit, mais je t'ai appelé pour le salut. Et ça, c'est quelque chose, c'est un objectif, c'est un but. Le salut, qu'est-ce que c'est? On va en parler. Et je te prendrai par la main. Imaginez-vous Abraham, qui vivait dans un pays des plus occultes et des plus païens qui soient, la Chaldée, ancien empire immense, dont la capitale était Ur en Chaldée. Et il vivait dans sa coutume, dans ses coutumes, dans ses traditions, dans ses religions, qui étaient des religions de l'Antiquité et des religions qui étaient assez cruelles. Et c'est un homme sorti de ce terreau-là, sorti de ce milieu-là, qui va entendre un jour l'appel de Dieu, sans comprendre, sans savoir, marchant à l'aveugle, et qui va faire confiance à cette voix qui l'appelle, et qui lui demande tout simplement de faire confiance, de le suivre, et cette voix va le conduire, finalement, et bien là où vraiment Dieu a pu se servir de cet homme, et cette transmission finalement est bien venue jusqu'à nous. Parce qu'à travers Abraham, qui est une référence dans le monde israélite, dans le monde juif, eh bien, a donné la nation que nous connaissons, la nation d'Israël, qui elle-même a donné naissance au Rédempteur, au Messie, pour les Juifs, au Sauveur, c'est-à-dire pour tous les hommes, Jésus, et qui va révéler pleinement, eh bien, la foi qui sauve. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est pas par notre intelligence, notre compréhension, nos bonnes œuvres, nos mérites, notre religion, nos traditions et tout ce que vous voudrez. C'est simplement parce que nous faisons confiance. Et nous faisons confiance à ce que nous ne savons pas, à ce que nous ne comprenons pas dans un premier temps, à ce que nous ne voyons pas. Et ça, c'est le miracle de la foi. Je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas une croyance. C'est quelque chose qui est mis au fond du cœur des uns et des autres quand ils sont disposés. Et à ce moment-là, eh bien, ça peut nous conduire très loin. Ça peut nous conduire à réaliser des choses insoupçonnées. Et Dieu fait la promesse, je te prendrai par la main, je te garderai. Je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, avec tous les peuples, puisque je vous ai dit qu'il a été le père des croyants, et Dieu dira, confirmera Abraham, qu'il deviendra, eh bien, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et ça s'est réalisé pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les captifs, et pour amener ceux qui sont dans les ténèbres, eh bien, à voir la lumière, parce que je le lis, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'invocation d'un Dieu qui, pour la plupart des hommes, nous ne le connaissons pas, et qui finalement devient une réalité pour nous, devient non seulement notre Dieu, mais ce n'est pas suffisant, devient un ami et devient un intime. Et ça, c'est le miracle de la foi. Alors, on va voir notre histoire, et je vous demande de tourner les pages de votre Bible, on va aller en arrière, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, et vous allez voir cet appel, il est quand même assez... il est mémorable, il demeure toujours, hier comme aujourd'hui, et je pense que c'est important de savoir que Dieu appelle encore des hommes et des femmes aujourd'hui. Vous savez, très souvent, lorsque nous suivons les pérégrinations de Jésus dans l'Évangile, rencontrant un tel, rencontrant une telle, Jésus va lever des hommes comme ça, et il dira par exemple à Matthieu, à Lévi, c'est le même personnage, ou à Zachée, il dira à d'autres qu'il rencontrera, « Viens et suis-moi ». Vous comprendrez que quand quelqu'un nous appelle dans la rue en disant « Viens et suis-moi », on ne suit pas. Parce que il y a quand même quelque chose d'élémentaire, c'est que il faut faire confiance. Et heureusement d'ailleurs, parce que il y a peut-être eu des gens crédules qui ont suivi et qui ont probablement regretté profondément et amèrement d'avoir entendu quelqu'un leur dire suis-moi et puis s'être retrouvé dans vraiment des situations impossibles, voire même beaucoup plus graves que cela. Et pourtant, cette parole a surgi et surgit encore du fond des âges dans l'histoire d'Abraham, donc Genèse chapitre 12. Je vais lire un petit passage. Il nous est dit au verset premier, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, on en a parlé dernièrement, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de nommer Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, à Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Voilà, c'est une histoire comme beaucoup d'autres que nous trouvons dans la Bible. Et on se dit, bon, rien de particulier, rien de transcendant, sinon que c'est l'histoire personnelle d'un homme qui va vivre quelque chose de particulier avec le ciel. Et cette histoire, finalement, elle est encore en résonance et elle peut encore avoir des échos chez les hommes, les femmes, dans notre temps et aujourd'hui, parce que c'est le même appel. C'est la même chose. Quelquefois, des gens disent, avec une connotation religieuse, voilà, il reçoit un appel. Alors on pense tout de suite que ce sont des illuminés, des mystiques. Mais moi je crois qu'Abraham n'était pas un mystique. C'était un homme qui probablement avait des dispositions dans son cœur qui rendaient favorable, ou si vous aimez mieux, propice, une expérience spirituelle avec, celui qui habite dans le ciel. C'était pas une révélation angélique. C'était pas une révélation avec toutes sortes de manifestations. C'était une voix. Et vous savez que quand on prend, dans l'histoire de la Bible, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que tout est basé sur une parole. Sur la parole. Lisez les premiers passages dans le chapitre premier du livre de la Genèse, vous verrez que toute la création a été faite sur la parole de Dieu. Et c'est elle qui est à la base, parce que c'est un souffle de vie, c'est un souffle d'espérance. Tout le monde connu, tout le monde visible, tout le monde, et celui qui nous dépasse et qui dépasse notre intelligence, procède, non pas comme les hommes sauraient le faire, d'une création matérielle, mais c'est une création qui procède de l'esprit. C'est pour ça qu'il y aura toujours parfois une incompréhension, bien qu'il n'y ait pas opposition entre la science et la Bible, mais il y a toujours en effet ce flou, parce que nous n'arrivons pas à faire correspondre la nature de la création qui est avant tout une nature de l'esprit et ce qui est matériel ou matérialiste. Alors c'est pour ça que, bon, dans ce domaine, il n'y a qu'une façon de pouvoir appréhender, recevoir les réponses à nos questions, c'est la dimension de l'esprit. Et nous voyons que Dieu va appeler Abraham à travers une parole. Il va s'adresser à lui. Alors, ce n'est pas de la légende. On a bâti souvent l'histoire, même l'histoire de notre pays, autour des Jeanne d'Arc qui entendent des voix, etc., et puis d'autres, ceci et cela, les mystiques d'hier et d'aujourd'hui, il y en a toujours eu. Maintenant, c'est pas de cela ce que je parlais. C'est véritablement ce qu'un homme, une femme peut entendre, peut ressentir, dans l'intimité de sa personnalité, de son cœur, de son âme, en disant « ce n'est pas possible, il doit exister autre chose que la dimension matière dans notre monde ». Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir, eh bien, certainement des réponses. Il doit y avoir, là, eh bien, certainement un Dieu. Et beaucoup de gens ont fait ce chemin dans ce sens et ont découvert. Alors, partir de rien comme Abraham, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Abraham, c'était un homme qui sortait du paganisme le plus vulgaire. Hein, il avait là, des dieux d'une grossièreté pas possible, avec des sacrifices comme dans l'Antiquité, où on sacrifiait des enfants, on faisait couler le sang, parce que c'était comme ça, la superstition, la magie, l'occultisme, enfin tout ce qu'il y a de plus abominable. Et il était tiré de ce milieu-là. Et c'était probablement un homme qui avait ses dispositions dans son cœur, avec une recherche de justice et de vérité, de lumière. Et il ne savait rien de tout ça, mais il s'est laissé influencer en disant, il s'est laissé influencer par ce qu'il pressentait dans son cœur, et il a été conduit, au fil de son existence, à découvrir la réalité du vrai Dieu, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu créateur, mais d'un Dieu qui sauve. Et voilà qu'à un moment donné, ça vient d'une manière abrupte, il nous est dit les paroles de cette manière, l'Éternel dit à Abraham. Voilà, ça arrive comme ça, le chapitre commence de cette manière, comme si c'était une façon tout à fait naturelle. Et l'histoire de cet homme va commencer, et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui donner une injonction. Tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, pour aller dans le pays que je te montrerai. C'est des choses difficiles. Il semblerait que dès l'abord, il y a un sacrifice à faire. Pour répondre à une voie qu'on ne connaît pas. Pour aller dans une destination que l'on ignore. Et pourquoi? Et comment faire? C'est quelque chose de terrible de pouvoir et de devoir à ce moment-là obéir à des injonctions qui sont quand même d'une grande sévérité, parce que quitter son pays, quitter sa patrie, la maison de son père, c'est une séparation à tous les niveaux, hein, au niveau d'en tant que citoyen, au niveau sentimental. Hein, la famille, c'est quelque chose qui est importante. Et il va recevoir cette injonction. Alors, c'est vrai qu'il y a de quoi hésiter, parce que il devait peut-être se dire, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne voudrais pas vous dire que ça s'est fait spontanément, mais ça mûrit dans son cœur. L'appel de Dieu est quelque chose qui mûrit dans le cœur des hommes, des femmes. Ça peut commencer déjà tout petit, et puis ça peut se révéler quelquefois au tard de la vie. Hein. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui, eh bien là, à plus de 85 ans, ont entendu cet appel. Et ont souscrit à cet appel parce qu'ils sentaient que c'était leur voie, que c'était leur chemin, qu'il n'y avait pas autre chose. Et ils sentaient qu'au bout de cela, eh bien, il y avait la paix, il y avait le bonheur, il y avait une réalisation de leur existence. Vous voyez qu'il n'est jamais trop tard pour répondre, puisqu'il nous est dit qu'il avait 75 ans, Abraham, quand il a répondu, imaginez-vous. Mais cet appel, il a dû l'entendre bien avant. Hein. Quelque chose de confus au fond de son cœur, quelque chose d'incompréhensible, mais qui est là. On se demande ce que c'est, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il semblerait que ça ne soit pas comme les autres. Et puis, voilà, on est dans l'attente, et c'est comme si on était nourri par une espérance qui nous rend joyeux à un moment donné, sans savoir tellement ce qu'il en est, jusqu'à la pleine révélation. Dieu lui dit, va-t'en, dans le pays que je te montrerai. Mais au moment où il est appelé, je vous ferai remarquer que Dieu lui montre pas le pays. C'est ça, si moi on me dit demain, eh bien tu vas à New York, je sais que c'est à New York. Mais si on me dit maintenant tu vas quitter Saint-Nazaire et puis tu vas aller dans le pays que je te montrerai, je serais peut-être un peu dubitatif en disant j'aimerais bien avoir des explications. C'est normal, c'est logique, c'est le raisonnement humain. Mais la foi ne s'embarrasse pas de cela. La foi est plus forte que tout cela et il avait du courage, hein, Abraham. Donc il a cru sur parole. Et figurez-vous, la foi, je le dis encore à dessein, ce n'est pas une croyance basé sur des enseignements humains, des choses comme ça. La foi, c'est une disposition morale de notre cœur où, véritablement, nous nous engageons et nous retenons ces choses, nous prenons fait et acte de ces choses sans avoir de preuves. C'est là où c'est courageux et c'est là où Abraham a été forcément courageux. Et Dieu poursuit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alors, évidemment, après cette introduction que nous venons de voir, de quitter, de se séparer, de faire le sacrifice de tout ce qui nous tient à cœur, et puis d'aller dans une direction où on ne sait pas, mais avec, eh bien, la réponse à la préoccupation, mais qu'est-ce que je vais y faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment vais-je vivre ou survivre, tout simplement? Mais Dieu surenchère et lui dit, mais je ferai de toi, parce que c'est toi que j'ai choisi. Je ferai de toi une grande nation. C'est une perspective. C'est vrai, c'est pas n'importe quoi de devenir un peuple, père de peuple. Donc, je te bénirai dans ce que j'ai promis de te donner, de t'octroyer. Je rendrai ton nom grand. Et vous savez que le nom d'Abraham est toujours connu dans le monde entier. Il fait partie des grands hommes de l'humanité, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit roi David pour Israël, que ce soit Jésus-Christ, et tous les autres noms, je pense qu'ils le pâlissent à côté d'un nom comme Abraham, Moïse ou Jésus. Parce que tous ont été des hommes, c'est vrai, ce que j'ai cité, mais ils avaient peut-être quelque chose de plus que les grands hommes conquérants dans l'histoire de l'humanité, sanguinaires et tout ce que vous voudrez, chefs de guerre, voilà, maîtres de peuple, mais à la différence, c'est que c'était des hommes qui avaient la foi, ceux-là, ceux de la Bible. Et ils n'apportaient pas la destruction, ils n'apportaient pas la malédiction, ils apportaient la bénédiction. Je te bénirai. Est-ce que pour nous, peut-être au fond de notre cœur, si nous avons ce souci de faire le bien, d'aspirer au bien, de pouvoir dire, eh bien, moi, je voudrais faire de ma vie quelque chose de bien. C'est tout à fait noble, hein. Je pense que, au début de l'existence, même après, il n'est jamais trop tard, hein, d'avoir cette ambition, cette faim et cette soif de justice et de vérité, et de dire, je voudrais vraiment. Et il y a des gens autour de nous qui se donnent à des missions, qui se donnent à des œuvres, qui se donnent à toutes sortes de choses. Mais pas seulement sur le plan horizontal, au plan de humain, mais qu'il y ait une perspective qui va beaucoup plus loin, une perspective spirituelle. Et ça s'appelle donner sa vie. Et vous savez, quand on donne, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on a donné. Et Abraham entend ces paroles. Il ne sait pas qui lui parle, il ne connaît pas encore son interlocuteur, mais il sait qu'il y a des paroles qui sont enfouies au fond de son cœur et qui correspondent peut-être à ses aspirations profondes. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et ton nom sera grand naturellement, et tu seras une source de bénédiction. » Est-ce que nous pouvons ressentir cela dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, d'un vouloir et d'un désir, d'une réussite? Tout le monde veut réussir, tous les hommes, si l'on pose la question à toute notre jeunesse, et à combien, peut-être davantage à nos jeunes, avec des perspectives, dans une société où quand même les choses sont quand même assez restreintes, pour ne pas dire quelquefois fermées, de vouloir faire quelque chose de sa vie. Et à tous âges, on peut avoir cette disposition. Eh bien, écoutez la suite. Dieu lui dit, mais je te bénirai, deuxième fois, je te bénirai, et je bénirai ceux qui te béniront. Ça, c'est toute l'histoire d'Israël, hein. Et je maudirai ceux qui te maudiront. On l'a vu, hein. C'est, finalement, c'est pas que Dieu se maudit les hommes, c'est les hommes qui se maudissent eux-mêmes par leur haine, par leur ressentiment, par leur esprit de dispute et de querelle à l'égard de leurs semblables et notamment à l'égard d'Israël. Oui, ça s'est vérifié, hein. Vous savez que Israël, c'est une poussière. C'est un petit peuple de rien du tout qui, depuis 4000 ans, tient finalement les nations en haleine. Et oui, encore aujourd'hui, la chronique, les chroniques dans nos médias, c'est en permanence. L'histoire a commencé avec Israël, l'histoire se finira par Israël. Lisez le livre de l'Apocalypse, ça vous pouvez en être convaincu. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors voilà l'appel. Et vous savez ce qu'a fait Abraham? Parce que quand on dit qu'on a la foi, la meilleure preuve de faire la démonstration que l'on croit en Dieu, qu'on a la foi, eh bien c'est d'obéir. Écoutez, Abraham partit. Si vous voulez que je change le mot, ça va dire la même chose. Abraham obéit. C'est fou d'obéir une chose pareille, sans savoir où on va, sans connaître celui qui nous appelle, sans avoir finalement d'autre élément que d'entendre au fond du cœur une voix qui nous dit, qui nous parle, « Viens et suis-moi ». C'est étrange. Et là encore, il faut beaucoup d'audace. On dirait que peut-être il faut même un grain de folie, vous comprenez, pour faire ça. Mais je voudrais ça même préciser que des gens comme Abraham, il y en a eu des millions et des millions qui ont fait cette même expérience, cette même aventure, qui ont suivi le même chemin et qui sont devenus aujourd'hui tout simplement des chrétiens. Parce qu'être chrétien, c'est pas l'avoir été déclaré lorsque nous étions enfants par un processus qu'on appelle le baptême, dont nous sommes totalement inconscients puisque nous sommes nouveau-nés et que l'on nous déclare chrétiens. C'est pas ça. Être chrétien, dans l'histoire biblique, dans l'histoire évangélique surtout, à travers ce qui nous est enseigné par Jésus, par les apôtres, c'est véritablement une rencontre adulte, en toute connaissance de cause, avec le plein pouvoir de nos facultés de choisir nous-mêmes. Et ça, c'est la différence. C'est pour ça que si vous lisez le message de l'Évangile, vous ne trouverez aucune référence au baptême des enfants. Ça n'existait pas du temps de Jésus. Ce sont les religions et les hommes qui ont inventé cela, qui ont mis ça en plus, parce que bon, c'est comme ça. Incorporation obligatoire dans une religion, qu'elle soit protestante, catholique, qu'elle soit ceci ou cela, c'est ça. Alors que finalement, eh bien, la conversion, c'est autre chose. C'est une voix qui parle à l'intérieur de nous-mêmes, et il ne s'agit pas d'une adhésion ou d'une un engagement pour une église, ou pour un mouvement religieux, ou une pensée religieuse, mais véritablement une rencontre avec celui qui est l'essentiel, qui est la vie, qui est notre vie. Alors il partit, comme l'Éternel le lui avait dit, obéissance absolue. Alors, je passais sur certains personnages. Abraham était âgé de 75 ans. comprenez que c'est jamais trop tard pour bien faire. Alors si vous avez moins de 75 ans, vous pouvez encore venir. Et si vous avez plus, c'est pas grave, il y a encore de la place. D'accord? Ce qui compte, c'est de croire, tout simplement. Alors il est sorti de Charan, parce qu'il était originaire de Ur, en Chaldée. C'était dans ce pays, je vous ai dit, mais dans ses pérégrinations, il est monté un peu plus haut dans cette ville de Charan, qui le rapprochait du pays de Canaan. Alors, il est parti. Alors, il a pris avec lui sa femme, son neveu, tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis dans ce pays. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, je voudrais quand même donner une petite précision. Quand Dieu l'a appelé, certainement des années auparavant, Dieu lui a dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Là, le temps a passé, il a eu le temps certainement de la réflexion, de mûrir et d'incuber ce grand voyage qu'il faisait, parce qu'à l'époque, il n'était pas question du train ou de l'avion, hein. C'était à dos de chameau, en traversant le désert de l'Irak, parce que si vous prenez la configuration, Ur se trouve en Irak, actuellement. Ensuite, on traverse là, eh bien, une partie du nord de la Syrie, là où il y a les combats actuellement, et on redescend ensuite sur le pays d'Israël, le pays de Canaan. Donc ça fait quand même quelques centaines de kilomètres, et voire quelques milliers, et il fait chaud par là. C'est quand même... Mais c'était une caravane qui s'avançait dans le désert. Et là, il semblerait qu'il y a un principe qui nous est enseigné, c'est que la foi, c'est quelque chose de progressif. C'est quelque chose qui naît dans mon cœur, dans votre cœur, des dispositions, des sentiments et ressentis, envie de prier. Oui, ça commence comme ça. Envie peut-être de lire la Bible si vous avez la possibilité, ou peut-être les amis vous offrir une Bible. Envie d'en savoir davantage, une curiosité de savoir si vraiment nous sommes tout seuls sur cette terre et qu'il n'y aurait pas dans le ciel, devant toutes les choses troublantes que nous voyons sur notre planète, qu'il n'y aurait pas un Dieu qui se cache quelque part et qui serait beaucoup plus réel qu'on le pense, qui serait beaucoup plus proche des hommes qu'on peut se l'imaginer. Un Dieu, qui... n'est pas un Dieu comme on nous l'a appris, un Dieu vengeur, un Dieu qui tire l'épée, un Dieu qui véritablement est prêt à apporter la mort et la destruction à tous ceux qui ne l'obéissent pas. Et c'est exactement l'image du contraire qui nous est donnée lorsque nous découvrons le caractère et la personne et les prérogatives de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui nous aime. Et ça, ça change tout. Parce qu'un Dieu qui me fait peur, moi je me sauve. Mais un Dieu, dans ma misère et dans ce que je suis, qui me parle, qui me dit des choses, comme nous l'avons lu dans l'histoire du prophète Ésaïe, quand, j'ai perdu la page, mais c'est pas grave, quand il nous dit que c'est toi que j'ai sauvé, je t'ai appelé pour le salut, je te garderai, je te protégerai, moi je pense que c'était vraiment quelque chose de formidable, parce qu'à ce moment-là, ça me donne envie d'en savoir davantage. Et, certainement, chemin faisant, le temps passant, eh bien nous voyons qu'Abraham, à ce moment-là, est parti pour aller dans un pays qu'il ne savait pas, mais il a été conduit, vous savez, comme les mages, avec l'étoile, là, pour arriver à Bethléem, vous savez, c'est une vieille histoire que nous trouvons dans l'Évangile. C'est quand même une histoire réelle, ça aussi, c'est pas de la mythologie, hein. Alors, il est parti pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est là où Dieu le voulait. Et est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir où Dieu nous veut? Qu'est-ce que Dieu veut de notre vie? Qu'est-ce que nous voulons faire avec Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire avec moi et avec vous? Qu'est-ce que je peux attendre de lui pour être béni? Est-ce que véritablement, en recherche, en ayant faim et soif de justice et de vérité, est-ce que je ne vais pas atteindre cette vérité et cette justice, qui ne sera pas celle des hommes, mais qui sera celle de ce Dieu que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, qui est invisible, mais qui est beaucoup plus près de moi que je ne peux m'imaginer? Il m'a envoyé sa parole, et à travers sa parole, eh bien, il me donne, dans le départ, comme des intuitions, comme un pressentiment. Et plus je vais aller, plus je vais me présenter devant lui, plus je vais le prier, plus je vais lui poser des questions, plus je vais lui demander qu'il m'aide, plus il va être proche. Et il va, à un moment ou à un autre, se révéler vraiment grandement, au bon endroit, au bon moment, au moment où je serai prêt à accepter et à recevoir ce qu'il a à me dire en plus. Vous savez que, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, là c'est encore un autre temps, il a dit à Moïse, tu diras au peuple d'Israël, aux fils d'Israël, que s'ils me cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force, je me laisserai trouver par eux. L'évangile, c'est pas plus difficile que cela. Un homme qui a de bonnes dispositions dans son cœur, qui aspire à autre chose, qui désire autre chose, pour lui-même, pour les autres, pour son bonheur, pour sa paix, et puis également avec cette perspective qu'il y a autre chose que finalement, eh bien, ce que les hommes nous offrent, vivre et mourir, alors à ce moment-là, eh bien, Dieu se laisse trouver. On aurait chacun d'entre nous une belle histoire à raconter, certainement de notre cheminement. On est venu des façons différentes. On a été, nous aussi, dans notre pays de Canaan à un moment ou un autre, et nous étions porteurs de quelque chose qui était indéfinissable à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y avait quelque chose qui nous attirait. Je le rappelle, ce n'est pas du mysticisme et ce n'est pas de l'illuminisme. C'est une réalité. Nous voulons être des gens équilibrés. Il y a quand même quelque chose qui parle plus fort. Et c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et à travers des circonstances, à travers des rencontres, à travers un témoignage, à travers une Bible qui m'avait été offerte, à travers un désir qui avait été mis en attente depuis des années, alors que j'étais un enfant et que je désirais depuis très très longtemps lire la Bible, eh bien, quelqu'un est venu vers moi et m'a offert une Bible, et c'est à partir de ce moment-là, et puis à partir de ce moment-là, d'autres portes se sont ouvertes, et encore d'autres, et nous avons fait une expérience formidable d'une rencontre avec Dieu. Et le pourquoi, le comment, j'ai eu en partie la réponse. Et aujourd'hui, si nous sommes au milieu de vous, pour vous dire que Jésus-Christ est vivant, que Dieu est une réalité, qu'il vous appelle et qu'il voudrait voir la foi dans votre cœur, c'est parce que justement, eh bien, c'est bien pour cela que nous sommes devant vous à parler. Parce que ça passe par la parole. Et la parole, c'est pas la parole d'un homme. Elle a très peu de valeur, celle-ci. Mais moi, je crois que quand un homme parle et parle de la parole de Dieu, ouvre la Bible, commente l'Évangile, parle de Jésus-Christ et de son salut, alors ça, c'est la parole de Dieu. C'est là où il est le plus important. Alors, il est arrivé dans le pays de Canaan, notre brave Abraham. Et il devait se dire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la vie, c'est une étape. Notre cheminement avec Dieu, c'est marcher pas à pas. Quand Dieu lui a dit, va, pars dans le pays que je te montrerai. Et je crois que la marche par la foi, viens et suis-moi, ça suppose que nous obéissions à faire le premier pas. Et quand nous avons fait le premier, il faut faire le second. Et ensuite le troisième. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des contestations avec l'extérieur, mais il y en aura aussi dans notre tête, notre raisonnement, à travers toutes sortes de suggestions, en disant « mais tu es fou, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de penser ?» Il y a toutes sortes de choses qui vont là se mettre en connexion pour essayer de nous arrêter sur ce chemin. Mais si nous persévérons et que nous continuons à faire foi à la parole que nous avons au fond du cœur, alors à ce moment-là, nous irons jusqu'au bout. Et vous savez, dans l'alphabet, on commence par A et on finit par Z. Eh bien, dans la marche par la foi, on commence par B, on commence par A, on passe à B, C, etc., etc. Alors, faut pas griller les étapes. Faut laisser Dieu nous conduire et on va le découvrir. Donc, il est arrivé dans le pays de Canaan. C'est là où Dieu le voulait. C'est là où Dieu allait le bénir. C'est là où Dieu allait lui parler encore. Abraham parcourut tout le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Il devait tourner en rond parce qu'il devait se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire là? C'est pas mon pays !» Il devait peut-être regretter sa patrie, il devait peut-être regretter sa famille, enfin il avait une partie, c'était sa famille à lui qui était avec lui, mais ses pères. Il devait dire « Mais c'est un pays que je ne connais pas, ce sont des étrangers. » Parce qu'il nous a dit que les Canaéens étaient alors dans le pays. C'est ça justement, c'est qu'il n'était pas tout seul. Et il devait se dire « Mais pourquoi? Pourquoi cette voix? Pourquoi ce Dieu invisible caché dans ce ciel, m'a amené ici. Moi, j'ai rien à faire avec ces gens. » Et pourtant, ils étaient là. Alors, quand on pose des questions à un moment ou un autre, quand on prie avec foi, quand on prie véritablement avec cette espérance, cet espoir profond que on ne prie pas des courants d'air, mais qu'on prie un Dieu, certes invisible, mais qui entend et qui répond, il nous est dit que l'Éternel apparut à Abraham. Voilà. Alors, je peux rentrer dans la considération de l'apparition. Moi, j'ai jamais eu d'apparition. Ça peut vous rassurer. Mais toujours est-il que, souvent, Dieu m'a parlé. Modestement. Simplement. Et j'ai identifié véritablement ses paroles comme quelqu'un qui voulait me conduire et me diriger et me montrer quelque chose. L'esprit humain est très retors, hein. Notre raisonnement et nos analyses. Mais néanmoins, j'ai vérifié et j'ai réalisé que même quand Dieu se cache, il est beaucoup plus près de nous pour nous dire « Tiens, c'est la route et le chemin, suis-le. C'est ta vie, c'est ton bonheur. C'est là où je vais te bénir. C'est là où ton nom sera grand. » Parce que vous savez que nous perdrons jamais notre nom. Moi, je m'appelle Alain, je m'appellerai plus Alain de l'autre côté. Mais j'aurai une identité comme chacun d'entre vous, une identité avec un nom nouveau, nous dit la Bible. Ouais, qui reflétera mon caractère, ce que j'ai été, non pas en tant qu'homme sur la terre avec des bras et des jambes, hein, ça c'est, on gardera peut-être quelques photos, mais toujours est-il, c'est l'identité profonde, la réalité de pourquoi Dieu m'a créé. Une personne, une personnalité, avec à développer des fruits finalement qui vont caractériser et qui vont ressembler au caractère de Dieu, vous comprenez ? Je ne suis pas Dieu, je ne serai jamais Dieu, mais néanmoins je suis appelé à être à la ressemblance de Jésus-Christ, parce que lui il est parfait. En amour, dans sa paix, dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa justice, dans sa douceur, etc. C'est ça, dans un monde où il y a tant de choses contraires. C'est ça, être chrétien. C'est pas d'en avoir le nom, ou d'en avoir tout simplement, eh bien là, la profession verbale, mais de l'être profondément dans son cœur. Abraham était un homme qui était appelé. Et un homme dont le nom est un grand nom, parce qu'il était appelé le père des croyants. Alors il lui apparaît, et Dieu lui dit encore une fois de plus, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Voilà, c'est ici, c'est maintenant. Oui, c'est quelque chose de formidable d'être en bénédiction aux autres. Hein. Parce que quand on a reçu du bien, on a envie de faire du bien aux autres. On ne veut pas le garder égoïstement, parce que c'est une grâce. Alors, qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Dans le peu de connaissances qu'il avait de son Dieu qui l'appelait, il nous est dit qu'il a bâti là un autel à l'Éternel. Mais c'est bien précisé, il a bâti un autel à l'Éternel. Il n'a pas bâti un autel comme tous les peuples païens le faisait, parce que des autels, il y en avait plein, hein. Et au dieu de la divinité multiple, du paganisme et toutes sortes de choses. Mais là, il nous est bien dit, il a bâti un autel à l'Éternel. Donc, il commence à comprendre, il commence à connaître. Il a identifié que le Dieu qui l'a appelé il y a des années auparavant, qui l'a conduit, qui l'a poussé, qui lui a donné certaines choses dans sa vie, eh bien, il pouvait dire maintenant ce Dieu du ciel, eh bien, moi, c'est l'Éternel. Et vous savez ce que ça veut dire, l'Éternel? Celui qui est à jamais. Je suis celui qui suit. Ça, c'est la révélation qu'Abraham a eue au buisson ardent, sur la montagne. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc, il a fait un autel. Il a été reconnaissant. Et c'est déjà les premiers c'est les prémices d'une identification de l'homme à croire en un créateur. Et non seulement en croire en un créateur, mais en croire en un Dieu sauveur. Un Dieu qui s'intéresse à sa créature et aux hommes qu'il a créé. Alors, il a bâti là donc un autel. Et puis, il a été un petit peu plus loin. Il se transporta vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, c'est-à-dire qu'il s'y installait. Et vous savez, quand on a découvert quelque chose, faut pas l'abandonner. Il était dans le pays où Dieu voulait qu'il soit, là où Dieu l'a béni, là où Dieu l'a amené après lui avoir parlé. Et il nous a dit qu'il a posé ses tentes. C'est-à-dire que il y a fixé sa vie. Et l'histoire du christianisme, eh bien, c'est un peu, finalement, filigrane, eh bien, un peu toute cette histoire. Un homme qui découvre Dieu, par la parole, parce qu'il entend son appel. À un moment ou à un autre, il va dire, ce Dieu-là qui m'a parlé, ce Dieu-là qui m'a béni, ce Dieu-là qui m'a conduit, eh bien, je ne veux plus le quitter. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on va prendre ce que Abraham certainement a fait, il a posé ses tentes, il a pris un engagement de fidélité. Ça paraît peut-être fou, mais si c'est fou, ça l'est. Mais quand un homme ou une femme a découvert cet amour de Dieu dans sa vie, les bénédictions de Dieu, ce Dieu-là, on n'a plus envie de les quitter. Enfin, moi, pour moi, c'est comme ça. J'avais 20 ans quand j'ai découvert le Seigneur. Et c'était une véritable révolution dans ma vie. J'avais vu toutes sortes de choses. Mais une chose qui est certaine, c'est que là, j'avais découvert véritablement ce pourquoi le Seigneur m'appelait. Ça fait 40 ans d'aujourd'hui. Hein. Mais je ne regrette pas, un seul instant, je ne regrette pas. Et je ne suis pas pour autant un mystique ou tout ce que vous voudrez. Je pense avoir les pieds sur terre. Mais une chose qui est certaine, c'est que maintenant, Dieu fait partie de ma vie complètement et totalement. Ouais. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons encore certainement beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup de progrès à faire. Faut le dire modestement et avec humilité. Mais une chose qui est certaine, c'est que je serais perdu si je n'avais plus Dieu dans ma vie. Je suis pas un fanat, hein. Mais je crois que c'est la caractéristique de tous ceux qui se sont véritablement convertis à Jésus. Parce que dans le processus, d'abord, c'est cette rencontre qui nous amène à confesser nos péchés à Dieu. Ce qu'on appelle la repentance. Ensuite, deuxième étape, c'est de nous fixer comme Abraham a fixé ses tentes là, dans l'endroit. C'est-à-dire, nous nous fixons sur Jésus-Christ. On sait que c'est lui notre sauveur. Ça s'appelle se convertir. On change d'avis, on change de vie. et maintenant, après avoir marché dans une direction, on marche dans une autre, et Jésus devant nous. Et après, il y a une nouvelle naissance, une transformation formidable. C'est ça l'explication de ce texte. Et c'est reporté finalement à travers tout le message de l'Évangile. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel. Ça fait deux fois qu'il le fait. Renouvellement de son engagement, renouvellement de sa fidélité, renouvellement de sa profession de foi. C'est-à-dire que il se dit, mais moi vraiment, de plus je vais, plus je vais, plus je vais, pardon, eh bien, excusez-moi, plus je vais, plus je crois. Voilà, plus je crois. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Écoutez, c'est une très belle histoire, cette histoire. Je voudrais terminer maintenant à travers les promesses qu'Abraham a reçues un peu plus tard. Il s'est passé quelques années. Il a fait des erreurs, Abraham. Il est descendu en Égypte alors que Dieu lui avait dit « Tu ne descendras pas en Égypte parce que c'est dangereux pour toi. » Mais néanmoins, ses histoires et ses aventures et ses expériences lui ont servi. Et un beau jour, Dieu lui a parlé tout à nouveau, c'est au chapitre 13 toujours, un peu plus loin, il lui dit « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. » Il le savait déjà, puisque Dieu lui avait déjà dit longtemps auparavant. Mais là, maintenant, il va se trouver dans la mise en place pour l'acquisition de cette bénédiction réelle. Voilà, il dira maintenant, lève les yeux. Et je vais te donner, je vais te montrer tout ce que je vais te faire de toi. Tu vas regarder ici, tu vas regarder là, et je voudrais te dire que tout ça, c'est pour toi. Vous savez que dans le regard d'un chrétien, véritablement non pas de nom, mais un regard de chrétien qui a la foi en Dieu, eh bien vous savez que nous avons des perspectives extraordinaires. Ouais, extraordinaires. Parce que nous seulement, nous ne regardons pas à notre horizon humain, en nous contentant de ce que nous avons et soyons heureux de ce que nous avons, mais notre horizon, il se dirige aussi à la verticale. Et là, c'est quand même autre chose. Parce que si sur terre, tout est limité et confiné, entre une naissance et une mort, c'est que de l'autre côté, il n'y a plus rien de tout ça. C'est l'infini. C'est l'éternel. C'est la vie à jamais. Et ça, c'est une perspective qui nous donne de l'espérance et qui nous amène peut-être, malgré les souffrances que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, les combats que nous pouvons avoir comme tout le reste des hommes, eh bien, de regarder en haut, ça nous donne une espérance et de la force. Parce qu'on sait que quelqu'un est auprès de nous, on n'est pas seul. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Abraham a reçu souvent ces promesses de Dieu en disant, eh bien, je vais te bénir comme la multitude des étoiles dans le ciel et comme le sable de la mer. Si vous voulez, après la réunion, je vous invite, nous allons aller à la plage et nous allons compter les grains de sable. D'accord? On en a pour un petit bout de temps, hein. Prenez un saut quand même, hein. Parce qu'on n'est pas sorti, hein. Eh bien voilà, mais c'est une métaphore, c'est une image, pour nous dire que quand Dieu bénit, il bénit sans compter. Et ça, c'est extraordinaire. Merci Seigneur de te connaître comme un Dieu si grand, un Dieu qui est tellement généreux et tellement bon. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors, viens et suis-moi, dit Jésus, par exemple, à Lévi, à Matthieu, viens et suis-moi. Il nous est dit que Lévi, Matthieu, se leva et le suivit. D'autres, comme ça, par dizaines, ont entendu ce merveilleux appel. Là, Abraham entend Dieu par deux fois lui dire, lève-toi. Il s'est levé une première fois pour obéir, et il s'est levé une deuxième fois pour saisir. Et vous savez, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous, en écoutant l'Évangile, eh bien, nous pouvons recevoir plus que nous pouvons imaginer et penser. Mais dans ce cas-là, il faut que nous puissions vraiment faire foi, faire confiance. Viens et suis-moi. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous ne serons jamais ni déçus ni confus. Et je termine, parce que je vais retrouver quand même la page. Chapitre 42, j'y reviens. Je voudrais simplement terminer par la relecture brève de ce qui nous est dit. Écoutez bien, si vous le remettez après tout ce que vous avez entendu dans cette petite demi-heure que nous avons passée ensemble, et que vous pensez à Abraham et que vous pouvez peut-être penser à vous-même, et que vous entendez cette voix qui vous dit la même chose, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Alors n'aie pas peur, ne crains rien. Je te garderai et je t'établirai pour t'aider une alliance avec le peuple. pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison les captifs, de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres, parce que notre vocation, c'est d'apporter justement l'espérance et l'espoir et la vie, et d'être des communicateurs, non pas d'existence, mais des communicateurs de vie. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'était bien Abraham au départ, hein. Il ne savait pas où il allait, mais Dieu l'a conduit, et il ne s'est pas trompé. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent, Seigneur. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. On n'est pas au bout du compte, hein. Mais néanmoins, ce que je ne sais pas, toi tu le sais, et ça me suffit, je te fais confiance. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Ce qui me paraît effrayant, ce qui me paraît terrifiant, eh bien Dieu est capable de le changer, en enthousiasme et en espérance, et qui va remplir mon cœur d'allégresse et de joie. Et je changerai les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Je ne les abandonnerai point. Il y a une très belle conclusion que nous avons dans le livre des Hébreux à la fin de notre Bible, où Dieu nous dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Alors faisons-lui confiance. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, mais écoutez la voix du Seigneur. Elle nous parle discrètement, elle nous parle doucement, mais soyons capables de pouvoir l'identifier et de lui dire « Seigneur, eh bien tu m'as appelé, viens et suis-moi, et maintenant je me lève pour te faire confiance et te suivre ». Nous allons simplement terminer en remerciant Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que nous croyons, Seigneur, que quand tu appelles un homme, et tu appelles tous les hommes d'ailleurs, mais quand il y a une sensibilité, quand il y a une disposition, quand il y a une saine et sainte curiosité, mais Seigneur, tu fais des grandes choses avec nous. Je te demande de visiter mes amis, Seigneur, qui ont entendu cette parole cet après-midi. Oh, tu leur fais du bien. Tu leur montres, Père éternel, que l'appel de l'Évangile, c'est pas un appel à un règlement, à des ordonnances, à des commandements, mais c'est bien mieux que ça. C'est véritablement, Seigneur, une prise de considération que tel que je suis, tel que nous sommes, eh bien ce grand Dieu qui pourrait nous juger ne nous juge pas, mais nous invite. Ce grand Dieu qui pourrait, en effet, Seigneur, véritablement montrer, Seigneur, sa grandeur, sa puissance et sa force, eh bien nous faire disparaître, mais au contraire, il est venu pour nous apparaître, pour que nous existions, et plus encore que nous ayons la vie en lui. Seigneur, tu parles au-delà des mots d'un homme, tu parles maintenant par ton Saint-Esprit, tu passes dans les cœurs, tu passes dans les consciences, tu passes dans les vies, dans nos esprits, Seigneur, et tu montres, encore une fois de plus, que ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, n'es-tu pas celui qui a dit, « Jésus, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors pour te rejoindre, pour t'atteindre, pour te connaître, Seigneur, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ, dans la mesure où nous reconnaissons qu'il a tout donné pour que nous puissions maintenant, Seigneur, eh bien nous avoir la vie, posséder, Seigneur, les richesses du temps présent et les richesses des temps à venir, de l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Amen.